Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Arjuna Andrade, Iseult Sicar, Aliette Ovin et Cédric Fuentes. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Bruno Gagnère-Fontani.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Troisième épisode de notre série consacrée au mirage de la dette. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'accès au crédit, véritable marqueur social, et à la menace du surendettement. C'est à la fin des années 60 que l'ouverture de comptes en banque se généralise dans la société française. L'objectif politique est alors d'insérer les revenus des ménages dans le financement de l'économie nationale. 50 ans plus tard, quelles sont les conséquences de l'essor du crédit chez les particuliers? Dans quelle mesure opère-t-il une différenciation sociale? Et le surendettement est-il l'inévitable contrepartie de la financiarisation de la vie quotidienne? Voilà les questions que l'on va se poser dans l'heure qui vient. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Nous allons parler de la dette des ménages en compagnie de Jeanne Lazarus, sociologue chargée de recherche au CNRS, membre du Centre Sociologie des Organisations de Sciences Po et auteur de L'épreuve de l'argent paru aux éditions Kalman-Lévy. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho.
Je viens de toucher mes premiers salaires. J'ai des nouveaux besoins, plein de projets.
Bien sûr.
Alors, une banque comme vous, qu'est-ce qu'elle fait pour moi ?
On ira où tu voudras, quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort.
Je suis content.
Bon.
Nouvelle vie jeunes actifs, des solutions clés pour aider les jeunes actifs à gérer leur nouvelle vie.
Crédit Agricole, une relation durable, ça change la vie.
Bonjour Jeanne Lazarus.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Une relation durable, ça change la vie. Voilà ce que nous dit cette publicité diffusée en 2007. Que nous raconte-t-elle, selon vous, Jeanne Lazarus, des spécificités de la relation bancaire sur laquelle vous avez beaucoup travaillé ?
Ce qu'on entend là avec la musique douce et la mise en scène d'une relation amoureuse entre le banquier et le client, c'est un des angles de la relation bancaire telle que les banques veulent la développer, c'est-à-dire une relation de proximité, une relation où la banque connaît son client pour lui proposer des produits qui seront adaptés au client, mais surtout des produits que le client achètera. Et en réalité, on a depuis que la bancarisation a eu lieu depuis les années 60, en permanence deux axes dans la communication bancaire. Un axe autour de la proximité, de l'écoute. Il y a des tas de slogans des banques autour de ça. Là, c'est une relation durable, ça change la vie. Donc, autour de la banque est là pour toujours. Et puis un autre axe, qui est un axe beaucoup plus commercial. La BNP avait lancé les hostilités en 73 avec sa grande campagne « Votre argent m'intéresse ». On voyait un banquier en costume qui regardait droit dans les yeux vers son client. Et donc, on a vraiment, et selon les périodes, selon aussi les banques, on a une oscillation entre ce côté relation, on s'entend bien, on est là pour vous aider, et le côté... On est là pour discuter d'argent, pour votre bien financier, mais pour notre bien financier aussi.
Alors on va voir comment ces différentes relations bancaires se sont progressivement mises en place. Au 19e siècle et jusqu'aux années 1860, les banques ne s'adressaient qu'à la grande bourgeoisie d'affaires et aux petits patrons de l'industrie et du commerce. C'est-à-dire qu'en fait, les premières banques de dépôt apparaissent seulement à la fin du 19e siècle, Jeanne Lazarus.
Oui. L'idée de la banque pour des gens qui n'ont pas de patrimoine à y placer, en fait, est une idée qui progresse extrêmement lentement. La première banque pour les pauvres a été imaginée au début du 19e siècle, c'était les caisses d'épargne. Donc avec une vision qui était que chaque centime épargné allait aider les ouvriers à faire face à leurs difficultés s'ils en rencontraient. Une vision très pédagogique en fait dans cette idée des caisses d'épargne, qui était aussi une vision nationale, une façon de faire entrer les ouvriers dans la nation à travers ces livrets d'épargne. C'est pour ça aussi que progressivement on a instauré des livrets d'épargne à l'école et les instituteurs. Donc on a toute cette logique républicaine où l'instituteur apprend aux enfants à être de bons citoyens, notamment à travers l'apprentissage de l'économie. Et puis, donc, à la fin du 19e siècle, l'économie c'est considérablement enrichie, mais aussi monétarisée, c'est-à-dire qu'il y a plus d'argent en circulation. Et puis, l'idée va être de faire venir l'épargne des petites gens vers le financement des grands projets. Alors, on connaît le résultat d'un certain nombre de choses qui vont être des grands scandales où les petits épargnants vont perdre leur argent. Zola, dans L'Argent, raconte très bien ça, hein, la façon dont il y a eu des espèces d'emballements, des bulles financières, et où les Parisiens, chez Zola, petits commerçants, petits employés, viennent mettre toutes leurs économies en espérant gagner des fortunes. Donc ça a été une période assez traumatique aussi dans la mémoire de ce qu'est la spéculation et les risques qui sont potentiellement encourus. Mais la banque de détail telle qu'on la connaît aujourd'hui avec un compte en banque, ça n'arrive qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ça n'arrive que dans les années 1960. Donc il y a toute une longue période où en réalité, quand on n'a pas beaucoup d'argent, l'argent est essentiellement sous forme liquide.
Et alors, qu'est-ce qui permet, dans les années 60, ce qu'on appelle cette bancarisation de la société, c'est-à-dire le fait que les ménages français ouvrent massivement des comptes en banque et recourent de plus en plus à des crédits ?
Alors, la bancarisation française, elle a été tout à fait clairement décidée par le pouvoir politique. Donc, les lois qu'on a appelées les lois Debré en 66-67 sont des lois destinées à ce que les agences bancaires puissent ouvrir que les banques puissent ouvrir des agences beaucoup plus facilement qu'elles ne le faisaient jusque-là, puisqu'il fallait des tas d'autorisations. Donc, il n'y a plus d'autorisation à demander. Et puis, ça va s'accompagner la mensualisation des salaires. Donc, jusque-là, les salaires étaient mensualisés uniquement pour les employés et pour les gens qui étaient plutôt hauts dans la hiérarchie. Les ouvriers, eux, recevaient leur paye à la semaine et donc faisaient la queue chaque semaine pour recevoir une enveloppe d'argent liquide. Or, un mouvement qui a lieu en même temps, enfin juste après la bancarisation, enfin les lois Debré, c'est mai 68, et une des revendications des syndicats, c'est la mensualisation des salaires ouvriers, parce que un salaire mensualisé, c'est un salaire plus stable, qui est mieux intégré dans la protection sociale, c'est un salaire qui est le même au mois de février et au mois de juillet, et donc c'était vraiment une demande de stabilité. Et ces salaires mensualisés vont être payés sous forme bancaire par les entreprises. Donc, pour avoir accès à son argent, ça va être un mouvement extrêmement rapide. Il va falloir ouvrir un compte en banque pour recevoir donc son argent sous forme de virement ou de chèque.
En 1966, seuls 18% des ménages possèdent un compte en banque, contre 99% aujourd'hui. Et vous l'avez dit, les campagnes de publicité se sont alors multipliées pour attirer l'épargne. Et la concurrence entre établissements s'accroît à partir des années 70.
Alors, la concurrence, elle est dès le départ présente. Simplement, les grandes banques, dans les années 60 et 70, sont nationalisées. Elles ont été nationalisées après la guerre. Donc, la BNP, la Société Générale, le Crédit Lyonnais sont des banques nationales. Ce qui fait que, en réalité, leur concurrence est un peu faussée. Et par ailleurs, elles proposent toutes les mêmes produits. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours le cas aujourd'hui. Les produits bancaires sont tellement réglementés que la créativité est en réalité assez limitée. Donc la concurrence, elle a beaucoup plus lieu autour de l'image de la banque. Justement, certaines banques qui vont plus jouer la proximité, le conseil, d'autres qui vont plus jouer le rapport commercial et le sérieux de l'expertise. Mais en réalité, passer d'une banque à l'autre ne change pas très profondément les services que l'on va recevoir.
Et alors, l'un des leviers du développement des banques, c'est précisément la démocratisation des crédits immobiliers et des crédits à la consommation au début des années 70. Jusque-là, les banques françaises ne prêtaient finalement qu'aux familles bourgeoises en prenant des garanties sur les biens.
Oui, alors les crédits ont une histoire un peu décalée par rapport à la bancarisation parce qu'il existe dès les années 50 les établissements qu'on connaît aujourd'hui qui sont les établissements spécialisés de crédit, CTLM, Sofinco et d'autres qui sont là aussi des constructions très liées au pouvoir politique qui a estimé qu'il était nécessaire d'avoir des financements de produits de consommation pour les ménages dans une période de croissance que sont ces 30 glorieuses. Et donc, ces établissements se sont développés à part par rapport au système bancaire. Donc, il était tout à fait possible de ne pas avoir de compte en banque et d'avoir un crédit chez CTLM, par exemple. Et ce qui va se passer progressivement, ça va être que les banques vont internaliser les crédits à la consommation et immobilier. Puisque les crédits immobiliers étaient également distribués par notamment le crédit foncier, donc par des entités qui étaient extérieures par rapport aux banques qui délivrent des comptes en banque. Et donc la banque universelle, selon les termes utilisés par les banquiers tels qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une banque qui propose tous les services, ça se crée progressivement avec des changements législatifs dans les années 60-70. Et c'est seulement vraiment dans les années 80 que les banques se mettent à prêter du crédit à la consommation de façon massive, et avec encore un changement, le dernier changement en date, si on peut dire, c'est le fait que les banques se soient intéressées au crédit renouvelable, qui était, lui, vraiment la marque de fabrique de ces établissements spécialisés. Les banques en commercialisaient un petit peu, mais elles se sont aperçues que c'était un produit extrêmement rentable. Donc on voit, au cours des années 2000, un transfert des produits renouvelables qui sont plus seulement donnés par les établissements spécialisés, mais par les banques, dont les parts de marché ne cessent de grandir.
Et alors, c'est véritablement au début des années 80 que les banques entament leur tournant commercial. La banque de détail devient une branche rentable de l'activité bancaire, ce qu'elle n'était pas auparavant. Et les banques cherchent peut-être à étendre la bancarisation en multipliant les services. On peut dire que le client devient un capital qu'il s'agit de faire fructifier, Jeanne Lazarus.
Oui, il y a vraiment un mouvement très intéressant, enfin, pour celui qui l'analyse, dans les années 80, puisqu'en fait, on a des lois bancaires, c'est quelque chose de relativement rare, une loi bancaire. Donc il y en a une en 66, une en 84, qui est donc sous le gouvernement socialiste, mais qui correspond à toutes les demandes que les banquiers avaient depuis la fin des années 70, puisque les banques s'étaient ouvertes donc au grand public, un grand public peu fortuné, qui utilisait peu de services, notamment parce que les services proposés étaient très limités, très réglementés. Et donc les banques ont commencé à dire, on a ouvert de nombreuses agences, on a des clients qui ne nous rapportent pas grand-chose parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent à placer. Tous les produits que nous leur proposons sont des produits gratuits. Ça, c'était un des éléments de la bancarisation, c'était que tout est gratuit, les chèques notamment sont gratuits, en échange de la gratuité des dépôts, c'est-à-dire qu'on ne reçoit pas d'intérêt sur ces dépôts. Et donc les banques ont dit, nous avons un personnel très important, beaucoup de clients, mais nous n'arrivons pas à rentabiliser les choses. Et le message était, la banque sera la sidérurgie de demain, au sens où on va avoir des plans sociaux massifs. Pour contrer cela, ce que demandaient les banquiers, c'était d'avoir l'autorisation de commercialiser davantage de produits, de faire payer davantage les clients. Et la loi bancaire de 84 va ouvrir toutes ces possibilités. Par ailleurs, le désencadrement du crédit va permettre ce dont je parlais, c'est-à-dire que les banques prêtent davantage. Et les clients particuliers, donc de charge, vont devenir des sources de revenus. En même temps, les banques vont inventer, si on peut dire, la segmentation de la clientèle, donc chercher à voir comment, selon le profil du client, on va le rentabiliser. Et tous ces termes sont utilisés tout à fait sans embâge par le monde bancaire. Pour, donc, les clients qui ont du patrimoine, on va rentabiliser leur épargne, mais ceux qui n'en ont pas, on va leur proposer des services payants. Et puis la dernière étape de ça, c'est évidemment la privatisation des banques qui va renforcer cette recherche de profit.
Mais alors cette évolution dont vous parlez, Jeanne Larue, c'est peut-être ce qui explique qu'aujourd'hui encore, le rapport marchand, dites-vous, est euphémisé. Les clients n'ont pas toujours bien conscience d'être dans une relation marchande avec leur banque.
Oui, alors cette histoire bancaire française qui est particulière tout en ne l'étant pas complètement, parce que quand on regarde ce qui s'est passé dans les autres pays européens, on a le même type de chronologie et la même importance aussi de l'État pour contrôler ce qui se passe. Mais c'est une histoire bancaire où la banque, initialement, quand elle s'ouvre dans les années 60 et 70 au grand public, c'est quasiment une administration publique. On a son compte en banque comme on a son affiliation à la sécurité sociale. C'est obligatoire. Si on veut toucher son argent, on doit passer par la banque. Mais ça ne coûte rien. Les banques sont très peu séduisantes. Elles n'ont pas encore fait leur effort de modernisation, de faire des jolis halls d'accueil, de faire de la publicité pour dire « venez chez nous, c'est mieux que chez le voisin ». Donc le pacte initial entre la banque et ses clients était un pacte de gratuité et de banque comme service public. Et puis, les choses ont bien changé dans les années 80, du fait donc de cette ouverture législative permettant aux banques de faire beaucoup plus de choses, qui va évidemment avec un mouvement bien plus général de libéralisation financière des années 80, la privatisation des banques, et puis le fait que les produits vont se mettre à coûter très cher, qu'avoir un compte en banque va devenir quelque chose qui fait partie du budget des ménages. Et d'ailleurs, un des signaux de ça, c'est que les associations de consommateurs s'intéresse très peu aux banques. Dans les années 70, j'ai épluché les journaux de consommateurs. Dans les années 70, on trouve quasiment jamais la question des banques.
C'est à partir des années 80, 90 ?
À la fin des années 80 et ensuite dans les années 90, ça devient un sujet massif. Et aujourd'hui, si vous ouvrez n'importe quel journal de consommateurs, il y a toujours au moins un ou deux articles qui parlent de banques, quand ça ne fait pas la une.
Vous l'avez dit, Jeanne Lazarus, selon leurs revenus, les clients ne sont pas intéressants de la même façon selon leurs revenus, selon leur patrimoine. Pour les banques, ce qui crée un rapport différent à l'institution bancaire selon le milieu social auquel on appartient.
Alors en tout cas, le service est différent. Le rapport, on peut considérer que le rapport est le résultat du service qui est proposé. Une chose très simple, c'est la densité des agences bancaires en fonction de la richesse des zones. Dans un centre-ville riche, les agences bancaires sont pléthoriques. Ça, c'est des mouvements qui sont relativement récents. Dans des quartiers plus pauvres, parfois, il n'y a que l'agence de la Banque Postale. Parfois, il n'y a quasiment pas de possibilité d'accéder à l'argent sans devoir faire des kilomètres. Et ça se voit aussi donc dans les queues qu'il faut faire pour accéder ou pas à un conseiller, dans le temps d'attente. Et puis dans le type de service qui est proposé, donc dans les agences où les clients sont fortunés, les services sont principalement des services de conseil pour choisir tel ou tel produit. Dans les agences où les clients sont plus en difficulté, la question c'est que les problèmes que les clients viennent poser, c'est comment je fais pour boucler mon mois si je suis à découvert, quand j'ai reçu des frais. Je viens pour négocier que la banque me les supprime ou en supprime une partie. Et ça, c'est quelque chose qui rapporte très peu d'argent, voire pas d'argent du tout aux banques. Et donc, elles ont aussi beaucoup convaincu leurs conseillers qu'un client qui ne rapporte pas d'argent est un client avec lequel il ne faut pas passer de temps. Et donc, c'est une des sensations que les clients peuvent avoir, c'est qu'il est très difficile de réussir à voir quelqu'un, de réussir à expliquer sa situation, à faire valoir qu'on est de bonne foi, que oui, on a eu une difficulté tel ou tel mois, mais qu'on est un bon client, avec le sentiment que la banque ne souhaite absolument pas répondre à ces demandes-là. Pour autant, quand on regarde les résultats des agences en termes de profit, les agences dans les quartiers pauvres ne sont pas forcément déficitaires parce que justement, tous ces frais qui sont imputés, les frais de découvert, mais aussi les cartes bancaires qui sont proposées aux gens, les assurances, etc., font que les clients, même peu fortunés, peuvent être tout à fait rentables.
La sociologue Isabelle Guérin parle d'un rapport de suggestion à la banque. Et alors, c'est une attitude qui est peut-être liée au manque d'investissement des banques dans leur clientèle modèle. Ce que vous nous expliquiez, et puis parfois effectivement un comportement d'auto-exclusion que l'on observe chez certains clients.
Oui, parce que quand on est un client avec des revenus confortables et le sentiment qu'on est favorisé par sa banque, en cas de problème, on n'hésite pas à prendre son téléphone, voire à se déplacer pour expliquer qu'on a raison et que la banque a tort et demander une réparation. Quand on est un client peu fortuné avec l'habitude d'être rejeté, de recevoir des fins de non-recevoir quand on fait une demande, progressivement, on ne fait plus les demandes. Et ça, c'est une des difficultés parce que un certain nombre de problèmes pourraient être résolus si les clients venaient en discuter, prévenaient, disaient ce mois-ci, je vais avoir quelque chose à payer, mais le mois prochain, etc. Mais ils ne le font pas en ayant le sentiment que personne ne les entendra. Et donc, ce sentiment de suggestion, c'est un sentiment de ne pas être accepté et que la banque a d'une certaine façon tous les droits, que c'est la banque qui énonce les règles, qui les applique et qu'on n'y peut rien.
Aujourd'hui, il est quasiment impossible de se passer de banque des banques en France. C'est en cela qu'on peut parler d'une financiarisation de la vie quotidienne, selon l'expression du sociologue Randy Martin.
Alors c'est un tout petit peu différent. La bancarisation et la financiarisation sont rentrées dans des débats sans fin. Justement, le modèle français est plutôt un modèle bancarisé au sens où la banque est là pour être une sorte de coussin entre l'argent des ménages et la haute finance, si on peut dire. Et donc que tous les soubresauts de la finance soient épargnés à l'argent du ménage modeste qui va placer sur des produits potentiellement peu rentables, mais garantis par la banque. Donc ça, c'est le modèle de bancarisation tel qu'il a été développé. La financiarisation, qui est un terme, notamment la financiarisation de la vie quotidienne, qui a été développée plutôt en Grande-Bretagne et aux États-Unis, ça correspond à des situations où l'argent des ménages est beaucoup plus dépendant de ce qui se passe sur les marchés, avec des effets. Quand le marché va bien, le patrimoine augmente, mais quand le marché va moins bien, le patrimoine diminue. Et un des effets, un des lieux de cette financiarisation, c'est les pensions de retraite, puisque dans ces pays-là, les retraites sont par capitalisation. Donc le patrimoine des ménages non seulement peut baisser, mais s'il baisse, c'est la retraite elle-même qui peut baisser, voire disparaître quand il y a des crises importantes. En France, on n'a pas cette dimension-là, donc la retraite n'est pas financiarisée, en tout cas pas directement pour les ménages. En revanche, il y a de plus en plus de produits financiers que les ménages peuvent souscrire. Le PEA a été inventé au début des années 80 pour que les ménages aillent sur les marchés. Mais la financiarisation de l'argent des ménages reste plus faible que dans des systèmes où la finance est bien plus proche des comptes en banque.
Les banques semblent en tout cas assez omniprésentes désormais dans notre quotidien. Et ce contact permanent avec les institutions financières a selon vous un effet. Il nous pousserait à adopter des rationalités qui sont celles de la banque. Pour reprendre l'expression de Michel Foucault, il existerait une conduite bancaire, des conduites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ?
Oui, donc le fait que notre argent transite forcément par un compte en banque fait qu'il faut intégrer la façon de compter de la banque. Alors, une des façons de compter de la banque, c'est le mois, par exemple, qui est là-dessus que sont calés les versements de salaire, les versements de prestations sociales. Mais lorsqu'on est un travailleur précaire, par exemple, le mois n'est pas forcément le bon moyen de stabiliser son argent. Et ça peut être une des difficultés. Et quand on regarde la façon dont les assistantes sociales essayent de redresser les budgets des ménages, une des choses, c'est très souvent de proposer aux gens de mensualiser toutes leurs charges, parce que de la même façon que les factures d'électricité, de téléphone, etc. Doivent être mensualisées, toute cette logique bancaire est une logique mensuelle. Mais il y a aussi, en fait, tout ce qui est possible ou pas possible que la banque va décider d'autoriser ou pas selon qui vous êtes. Donc, par exemple, le découvert va être possible si la banque juge que vous êtes un client sûr, et donc non seulement va vous autoriser un découvert, mais si vous dépassez votre découvert autorisé, va vous laisser prendre de l'argent, moyennant finance, mais va vous laisser le faire. Un autre client, en demandant la même chose, ne l'obtiendra pas. Et donc c'est là que la banque conduit les conduites, au sens où elle va progressivement socialiser ses clients à se rendre compte que les règles de la banque doivent être comprises, doivent être intégrées, et que la banque a le droit de juger de ses clients. Et donc ce qu'explique Michel Foucault avec son idée de subjectivation, c'est bien que la subjectivité des personnes va être transformée par le contact avec ces façons de compter.
Alors il y a plusieurs attitudes qui sont adoptées par la banque et par les banques. La première approche peut-être du client, c'est une approche que vous décrivez comme à la fois compréhensive et peut-être un petit peu paternaliste. C'est l'approche qui existe dans un premier temps.
Alors c'est par exemple l'approche qu'on a entendue tout à l'heure avec le Crédit Agricole, et c'est effectivement l'approche qu'on trouve au début de la bancarisation, avec donc l'idée que les Français ne savent pas bien comment la banque fonctionne et qu'il faut leur expliquer, les accompagner, les prévenir des risques, par exemple que le chéquier est un produit dangereux. J'avais trouvé des textes expliquant que c'était très dangereux de mettre les chéquiers entre les mains des femmes parce qu'elles allaient faire des chèques sans se rendre compte que c'était de l'argent. Donc voilà, toute cette approche paternaliste, on peut vraiment en trouver des traces. Aujourd'hui, les choses sont plus euphémisées. Toutefois, on peut tout à fait entendre parfois en sous-texte ce genre d'idées.
Et alors, auprès des jeunes, notamment, la banque se présente comme une institution souple qui peut accorder facilement des crédits. En ce sens, elle est peut-être libératrice, mais c'est seulement dans un premier temps, nous dites-vous, Jeanne Lazarus. Les clients découvrent ensuite la rigidité des banques et des établissements de crédit.
Je fais quoi pour récupérer votre retard ? Je vais juste vous rafraîchir la mémoire. Le 30 mai, vous n'étiez pas au courant des retards. Vous deviez voir le week-end et me rappeler le 2 juin. Aujourd'hui, on est le 16. J'attends toujours votre coup de fil, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Il vous reste 4 jours. Bah, vous vous débrouillez. Vous trouvez quelqu'un qui vous prête de l'argent, monsieur. Moi, vendredi, votre dossier, il est terminé. Après, c'est saisi arrêt sur votre solde. Si c'est ce que vous voulez, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais je suis sûr qu'en cherchant un peu dans votre entourage, il y a bien des amis qui peuvent vous dépanner. Maintenant, si vous ne cherchez pas, je ne vais pas chercher pour vous.
Ne retournez pas les contrôles, monsieur. C'est un peu trop facile aujourd'hui de vous poser. Vous permettez ? Vous permettez, parce que c'est moi qui suis obligé de vous appeler dans la cabine téléphonique. Et c'est vous qui, aujourd'hui, nous critiquez. Ah bon, vous trouvez ça naturel, bien sûr. C'est tout à fait naturel, n'est-ce pas, hein ? C'est tout à fait naturel qu'on paye pour vous. Ça doit être votre habitude, monsieur. Si, je vois bien le titre d'individu, hein. Non, il n'y a pas de question d'équité, monsieur. Aujourd'hui, votre état d'esprit, c'est de dire, c'est normal, nous, aujourd'hui, on gagne de l'argent, c'est normal qu'on vous appelle et qu'on paye à votre place. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous mettez dans une position d'assister.
Voilà, on entendait deux salariés d'un établissement de crédit filmé en caméra cachée qui étaient au téléphone avec des clients. Il s'agit d'un extrait du documentaire de Romain Icard, Survivre à crédit, diffusé en 2008. On l'entend, Jeanne Lazarus, le ton est cette fois au rappel à l'ordre, voire carrément à la menace.
Oui, on entend la violence que la relation bancaire peut revêtir. Avec, effectivement, vous parliez de suggestion tout à l'heure, on comprend qu'après ce type d'échange, les clients cherchent à être le plus loin possible de la banque et à ne pas avoir à vivre ce type d'humiliation. Mais ce qui est intéressant, c'est que, donc on voit bien que au problème financier s'ajoute ici le mépris social, mais que cette violence, elle revient vers les banques. C'est-à-dire que les conseillers bancaires, très souvent témoignent du fait que leurs clients peuvent être extrêmement agressifs vis-à-vis d'eux. Le moment de l'affaire Kerviel a été très intéressant parce que à ce moment-là, dans beaucoup d'agences bancaires, des clients ont dit « mais non, je ne veux pas payer pour de frais pour mon découvert, il n'y a pas de raison, regardez ce qui se passe dans vos, chez les traders, dans la banque d'affaires, vous laissez des milliards partir et là, pour quelques dizaines d'euros, vous êtes en train d'essayer de bloquer mon compte. » Et ça a été un moment en fait assez dur pour les conseillers bancaires à vivre, mais qui a eu un effet, je crois, important aussi dans l'organisation générale de la banque, de réflexion sur le fait que s'adresser de cette façon aux clients pose des problèmes, que ça n'est pas forcément juste et que ça n'est pas forcément une bonne chose en termes même commercial, parce que des clients peuvent être en difficulté à une période et aller mieux à une autre, mais se rappelleront qu'on ne les a pas aidés quand ils étaient en difficulté.
Donc pas de mépris social, d'abord pour des raisons économiques.
Ah oui, de toute façon, oui. Mais en même temps, ce qui est intéressant, moi, dans mes observations dans les agences bancaires, c'est de voir que les salariés bancaires sont mis dans des positions impossibles, puisque justement cette violence, qui est une violence sociale et économique d'abord, en fait, ils la vivent de plein fouet, puisqu'ils voient défiler, surtout quand ils sont dans des quartiers avec beaucoup de clients qui sont en difficulté, ils voient défiler des gens qui n'ont pas assez pour finir le mois, qui ont des situations difficiles. Et donc, progressivement, ils se blindent Et plutôt que de s'apitoyer sur le sort de leurs clients, ils finissent par se dire que c'est les clients qui sont pas honnêtes, qui avaient dit qu'ils rappelleraient, qu'ils n'ont pas rappelé, qui avaient promis qu'ils verseraient de l'argent, qu'ils ne l'ont pas fait, etc. Donc ils accumulent les preuves que finalement les clients ont bien mérité la situation dans laquelle ils sont et que c'est à, qu'ils peuvent donc les traiter comme on l'entend dans cet extrait.
Ce que vous expliquez aussi à Jeanne Lazarus, c'est que la banque sanctionne les comportements qu'elle juge non conformes. En cela, elle est productrice de ce qu'on appelle l'hétéronomie, que je vous laisserai définir.
Oui, en fait, c'est toute la question du rapport à l'économie qui est un rapport, si on suit la base d'un cours d'économie de première année, on nous explique que sur un marché, on a des acteurs qui sont volontaires pour participer au marché et donc qui sont autonomes dans leur participation au marché. Or, la banque n'est pas un lieu d'autonomie. Elle promeut l'autonomie. Elle dit qu'elle est là, par exemple, pour donner des crédits qui permettront de devenir autonomes. Elle dit aussi qu'il faut utiliser les produits bancaires de façon autonome. Sauf qu'en réalité, elle crée des contraintes. Évidemment, le crédit est une dette à rembourser, donc en ce sens, crée une hétéronomie. Et puis, le fait que les règles soient édictées par elle ne soient pas négociables, puisque c'est un lieu démocratique, même s'il est obligatoire, fait que c'est un endroit où on peut se sentir comme un enfant devant un professeur, à devoir répondre de ses actions, à devoir dire « Ah ben oui, je suis allée au restaurant alors que je n'avais pas d'argent sur mon compte, mais c'est parce que ma mère allait mal, etc. » Donc les gens, d'ailleurs les banquiers souvent soulignent que les gens leur racontent leur vie très en détail, mais forcément qu'ils leur racontent leur vie parce qu'ils sont sans cesse mis dans une situation de devoir justifier l'ensemble de leurs actes.
Et alors après la compréhension et la contrainte, la troisième étape que vous décrivez, Jeanne Lazarus, ou le troisième comportement que la banque peut adopter, c'est celle de l'autonomisation justement des clients vis-à-vis de la banque. C'est-à-dire on va finir par récompenser celui qui sait gérer son argent sans l'intermédiaire de la banque.
Oui, donc ça c'est tout le développement de la banque en ligne, mais le simple fait d'avoir changé les guichets qui étaient remplis par des personnes, par des guichets automatiques, fait que les banques ont délégué, comme dans plein d'autres domaines de la consommation, ont délégué aux consommateurs une partie des actes qu'elles faisaient jusque-là. Et là, clairement, pour des raisons de coût. Donc ça veut dire qu'il faut être capable soi-même de comprendre comment il faut s'y prendre. Mais cette autonomie, elle n'est pas juste pratique. C'est aussi une autonomie dans la façon de compter. Et plus on est capable de le faire soi-même, plus on est capable d'obtenir le meilleur de la banque. Par exemple, de comparer les prix.
Et alors, il y a évidemment aussi des heurts et des résistances des clients dans la relation bancaire. On va en parler dans un instant.
I won't stand, I won't wait, yeah, yeah, I won't.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
C'était The Bad Debt Follows You des Go-Betweens. Et nous sommes toujours avec Jeanne Lazarus pour parler de la dette des ménages en France. Alors c'est souvent autour du crédit que se cristallisent les tensions entre les clients et leurs banques. Or on dénonce souvent la trop grande facilité d'accès au crédit qui poserait des questions de, des problèmes d'endettement et de surendettement. Mais en réalité, selon vous, Jeanne Lazarus, cet accès est particulièrement discriminant.
Oui, quand on regarde les chiffres sur qui s'endette en France, on voit très nettement que les trois premiers déciles, donc les 30% de la population les plus pauvres, ont très peu accès au crédit. Donc c'est vraiment, et si on se limite au crédit immobilier, c'est encore plus resserré. C'est vraiment la partie la plus riche de la population qui peut y accéder. Et c'est un mouvement qui ne cesse de s'amplifier sur le crédit immobilier. C'est très très net. À la fois les montants empruntés explosent, avec le prix du logement qui augmente, mais la part de la population qui peut accéder au crédit diminue. En revanche, donc les ménages les moins riches accèdent peu, mais accèdent parfois au crédit à la consommation. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi des types de crédits à la consommation qui sont plus ou moins chers, plus ou moins de bonne qualité, si on peut dire. Et que plus les ménages sont aisés, plus ils arrivent à avoir des crédits peu chers et adaptés à leurs besoins. En revanche, les ménages les plus pauvres, lorsqu'ils accèdent au crédit, c'est très souvent des crédits renouvelables qui ont été beaucoup amélioré hein, depuis la loi Lagarde en 2010 qui a énormément changé les données du problème. Alors la loi Lagarde a eu comme effet de renchérir le coût du crédit renouvelable, d'obliger aussi les prêteurs à mieux vérifier la situation des emprunteurs. Donc l'effet net, ça a été une diminution des encours de crédit renouvelable, mais aussi une diminution de l'accès. Et ça, c'est un problème qui se pose un peu, qui est un problème théorique, si on peut dire, hein. C'est que soit on donne un accès large avec le risque qu'une partie de la population s'endette, et sachant que les ménages les plus pauvres, quand l'accès est large, ont toujours un endettement très cher. Donc si on regarde aujourd'hui les pays comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis, cet endettement très cher, c'est des taux à plus de 100%, parfois 600% annuels, si on les ramène pour des crédits de courte durée, mais si on les ramène à l'année, on est vraiment dans des taux absolument incroyables. En France, ça n'existe pas. On a un système qui est très protecteur pour le consommateur, mais cette protection
en revanche, l'accès
est excluante.
Plus difficile. Et alors justement, selon quels critères est-ce que les banques décident d'accorder ou non un crédit ? Comment ce processus de sélection se déroule-t-il, Jeanne Lazarus ?
Alors la sélection est à la fois très réglementée, tout en étant libre, puisque les banques ont la liberté de choisir ou pas avec qui elles vont contracter. Donc on a une sélection qui est d'abord évidemment une sélection sur les revenus des personnes, mais en réalité, enfin, on pourrait dire que c'est d'abord sur le revenu, mais quand on regarde des formulaires que les banques font remplir ou qu'elles remplissent elles-mêmes en interrogeant les clients, les premières questions sont pas centrées sur le revenu, mais elles sont centrées sur le mode de vie. Et notamment, ce qui est important pour elles, c'est la stabilité. Stabilité dans l'emploi. Donc, il faut montrer qu'on a un emploi en CDI. Si on veut un emprunt immobilier, c'est quasiment impossible de faire autrement. Pour les emprunts à la consommation, ça peut être, les CDD peuvent être acceptés dans certains cas. Il faut montrer aussi une stabilité dans sa vie familiale. Donc, par exemple, on demande aux gens leur adresse, on leur demande leur ancienneté dans l'adresse. Donc, c'est pris en compte le fait d'être ancré quelque part. Cet ancrage, c'est aussi le fait que quand on est marié, on a une meilleure note que si on est célibataire ou même concubin. Le fait d'avoir des enfants, on pourrait penser que ça pourrait aller contre le fait d'emprunter, au contraire, puisque c'est une marque de stabilité. Donc ces éléments de stabilité sont pris en compte, et puis ensuite on prend en compte le revenu avec une règle qui est une règle qui n'est pas légalement inscrite dans la loi, mais qui est quelque chose que toutes les banques respectent en très gros, c'est le fait qu'on n'a pas censé être endetté à plus de 33% de son niveau de revenu. Et donc on a toute une série de critères comme ça qui, crée justement cette exclusion, parce que répondre à tous ces critères, il faut aussi, alors pour les emprunts immobiliers, il y a aussi la question de la santé. Donc là, l'âge qui peut favoriser le revenu ou qui peut favoriser la stabilité peut être défavorable côté santé. Donc en fait, quand un client est évalué pour accéder au crédit, il se rend compte que des domaines de sa vie qu'il n'avait pas anticipé comme problématiques peuvent lui être opposés en lui disant « mais vous n'êtes pas un si bon client que ce que vous pensiez ».
Même s'il y a aussi la question de la confiance qui peut aussi entrer en jeu. Cela dit, les conseillers, nous dites-vous, ont quand même une marge de manœuvre assez restreinte sur ce point.
Oui, moi ce que j'ai vu dans mes enquêtes, c'est que la confiance interpersonnelle intervient très rarement. Alors ça dépend aussi des groupes bancaires. Certains groupes, et notamment les groupes mutualistes, jouent davantage cette carte-là dans les territoires ruraux, par exemple, dans des espaces où il y a de l'interconnaissance. Mmh. Et donc on va garantir par l'ancrage dans le tissu social local, on va accepter des crédits qu'on n'aurait pas forcément acceptés ailleurs. Mais en ville et dans les groupes bancaires plus commerciaux dans leur approche, en réalité, les conseillers bancaires ne sont que des interfaces entre le client et le système informatique, ou bien des services de risque qui, eux, ne rencontrent pas le client et qui vont, en dernière instance, décider si oui ou non le crédit est accordé.
Et puis, selon le milieu social dont on est issu, on a plus ou moins les codes langagiers, notamment pour négocier face à son banquier. Et puis, la demande de crédit nécessite aussi un certain nombre de connaissances économiques, juridiques. C'est aussi en cela que cet accès est discriminé.
Oui, on voit bien que selon l'aisance sociale, les clients peuvent plus ou moins faire valoir leur bon droit. Notamment, c'est vrai pour les crédits immobiliers dans le cadre de la négociation du taux. Les clients qui sont mieux informés savent que un taux se négocie. Alors, le développement des courtiers un peu changer les choses, puisque les courtiers font la négociation à la place des clients. Donc même des clients qui n'auraient pas forcément tout ce savoir-faire social peuvent bénéficier des capacités de négociation des courtiers. J'avais été très surprise, il y a 2 ans, j'ai participé, j'étais dans le conseil scientifique d'une enquête, d'un testing sur l'accès au crédit immobilier et au crédit pour monter une entreprise en fonction de critères ratios. Et il était apparu que les critères ratios étaient absolument, jouaient un rôle absolument fondamental dans les réponses qui étaient ou pas données aux demandes. Et c'était pour moi, je dois dire, assez surprenant, puisque je m'étais convaincue au fil des années que les banques avaient des façons de juger relativement standardisées et que ce qui comptait, surtout pour des crédits importants, c'était finalement la stabilité financière. Et on s'est rendu compte que, en tout cas, quand on avait évidemment créé des profils, dans les tests, on crée des profils, quand on avait donc des gens qui étaient dans une situation un peu tangente, donc là, le conseiller joue, parce que le conseiller va dire non tout de suite ou oui peut-être, et le non tout de suite venait de façon très très rapide pour les clients, les faux clients qui n'étaient pas blancs.
C'est en effet une discrimination dont on parle assez peu. Et alors ces crédits à la consommation et ces crédits immobiliers peuvent entraîner des situations de surendettement. Écoutons un extrait du film de Philippe Lioret, Toutes nos envies, sorti en 2011, et qui raconte le combat d'une jeune juge contre le surendettement. Ici, elle fait face à une mère de 2 enfants acculés par les dettes.
Nous voyons maintenant Madame Hersant Céline.
Madame, nous vous voyons pour un litige qui vous oppose à la société de crédit Crefiref. Et je vois que vous avez aussi plusieurs autres procédures en cours avec d'autres créanciers, l'OPHLM, le Trésor public et 3 autres organismes de crédit. Vous connaissez le montant de votre endettement uniquement chez Crefiref, madame ?
15 000 ?
Non, 18 000. 18 200 euros même, en crédit à la consommation et pénalité de retard. Ce qui porte vos remboursements à 440 euros par mois. Mensualité dont vous ne vous êtes pas acquitté depuis 5 mois. N'est-ce pas, maître ?
Tout à fait, madame la présidente.
Je vois aussi que, malgré cette procédure, vous avez encore contracté le 11 juillet dernier, toujours chez Crefiref, une nouvelle réserve d'argent de 2000 euros.
Non, mais ça, c'est l'assistante sociale qui m'a conseillé de les emprunter. Pour payer l'EDF, sinon ils allaient nous couper.
2000 euros d'EDF ?
Non, j'ai remboursé un peu les autres crédits aussi. Passais chez moi sans arrêt. Puis un peu le loyer, je recevais des mises en demeure. Sinon, je dépense rien, madame. Je fais attention à tout.
Bon, concernant les échéances, maître, alors vous proposez quoi ? Un étalement ?
Pas du tout. On reste à 440 euros par mois. Mon client ne peut pas accepter d'être remboursé au calende grec.
La fiction s'est emparée de la question du surendettement. Jeanne Larue, c'est le signe que cette inquiétude est de plus en plus présente dans notre société ?
Oui, c'est le surendettement, c'est un peu l'image de la déchéance sociale qui attend au coin de la rue n'importe qui, quelqu'un qui est intégré, qui a accès au crédit justement malgré ses difficultés d'accès, mais qui tout d'un coup ne pourrait plus faire face et qui, par le surendettement, a la preuve que son insertion sociale, n'était pas aussi solide que ce qu'il pensait.
On a le sentiment qu'on s'intéresse plus aux risques que prennent les prêteurs et aux moyens de les éviter qu'aux risques pourtant bien réels que prennent les emprunteurs. Et le drame des époux quartiers criblés de dettes qui ont tenté d'empoisonner leurs enfants en 2002 en est peut-être un exemple particulièrement frappant.
Alors, les époux quartiers correspondent à un profil de surendetté en réalité extrêmement rare, c'est-à-dire des familles qui ont fait trop d'achats. Puisque c'était, on a eu dans la presse les détails des téléviseurs, de toutes les sortes de choses que cette famille achetait pour les enfants qui restaient même dans la cave, pas déballés. Donc ça, c'est...
Selon la Banque de France, c'est à peu près un quart des comportements qui entraînent un surendettement ?
Non, c'est beaucoup moins que ça. En tout cas, dans ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a des comportements où les gens n'ont pas bien compté, etc. Mais des gens qui simplement jetteraient l'argent par les fenêtres, passeraient leur temps à partir voyager à l'autre bout du monde, etc. C'est vraiment très, 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 très rare. Le plus souvent, dans les dossiers de surendettement, ce sont des gens qui n'arrivent plus à équilibrer les recettes et les dépenses. Donc, ça peut venir des recettes, ça peut venir des dépenses également. Mais c'est pas tellement lié à des comportements de consommation excessifs. Sauf à dire que la consommation excessive, c'est simplement le fait d'avoir encore envie d'avoir quelques loisirs, d'avoir une participation à la vie sociale quand on a tout d'un coup plus beaucoup d'argent ou quand on a structurellement très peu d'argent.
Vous parliez tout à l'heure de la loi Lagarde en 2010 qui réformait le crédit à la consommation afin de responsabiliser davantage les établissements prêteurs. Avant cela, la loi Neyertz de 1989 a fait en sorte que les pouvoirs publics organisent une médiation neutre entre débiteurs et créanciers. Des commissions administratives chargées d'examiner les situations de surendettement ont été créées dans chaque département. Elles dépendent de la Banque de France. Alors, quelles solutions peuvent-elles proposer ? Quel est le rôle que jouent ces commissions administratives ?
Alors, le principe de la loi Neyertz, c'est que la Banque de France joue un rôle de médiateur, initialement, avec toute une série d'étapes. Donc, ça n'est pas... Dans certains pays, il y a un système de banqueroute où on ne peut plus payer, on se met en faillite et on ne rembourse pas ses créances. C'est pas le choix de la loi Neyertz. La loi Neyertz, c'est un système de remboursement, mais avec un plan de remboursement. Donc le débiteur dépose un dossier en montrant toutes ses dettes. Alors, une des difficultés, on le voit dans cet extrait, c'est que les débiteurs ne sont pas forcément au courant de combien ils doivent, car ce sont les prêteurs qui, eux, décident du calcul, notamment les frais de retard, etc. Donc, il y a un premier travail qui est de faire la liste des dettes. Et ensuite, ce que fait la Banque de France, c'est de conserver un reste à vivre à la famille, donc en disant selon la composition du ménage, il faut pour pouvoir manger tous les jours tant d'argent, et ce qu'il reste va être utilisé pour rembourser les dettes. Donc ça, c'est le principe initial de la loi Neyertz. Il y a eu des tas d'évolutions depuis, et notamment en 2003, la loi Borloo, qui a instauré la faillite personnelle, qui fait que dans un certain nombre de cas, quand il n'y a pas d'argent disponible du tout, la commission de surendettement ou le juge peut décider d'effacer entièrement les dettes.
En tout cas, ce n'est pas le fait de crouler sous les dettes, bien sûr, qui est nouveau, mais c'est le fait d'avoir créé cette catégorie administrative du surendettement, un terme qui apparaît, je crois, dans les années 80. Et alors, en 2017, 160 000 dossiers de surendettement ont été jugés recevables par la Banque de France. On est revenu au niveau de 2007, après un pic en 2011. Comment est-ce que vous expliquez ce recul auquel on assiste depuis quelques années, Jeanne Lazarus?
Alors c'est un sujet d'interrogation pour beaucoup de gens parce que la société française n'est pas forcément plus riche qu'il y a 10 ans et on le voit dans l'actualité. Les ménages qui ont du mal à finir leur fin de mois sont toujours aussi présents. En revanche, sans doute, ce qui explique cette baisse, c'est bien les effets de la loi Lagarde et le fait que l'accès au crédit est devenu plus difficile. Donc cet engrenage où l'on prenait des crédits pour en rembourser d'autres et stopper plus tôt, avec comme effet que dans les dossiers de surendettement, on a de plus en plus de dossiers où les crédits représentent soit sont complètement absents, soit représentent une part relativement faible par rapport à d'autres dettes, le loyer, EDF. Donc là où on prenait un crédit pour payer son loyer, on est beaucoup plus vite en situation de retard de loyer et on dépose un dossier dans lequel on a des factures impayées. Savoir si il vaut mieux être en dette vis-à-vis de la banque ou vis-à-vis de son bailleur reste une question sans doute à travailler. Mais en tout cas, les changements d'accès au crédit ont sans doute des effets sur le surendettement.
Les trois quarts des cas de surendettement seraient liés à un accident de la vie, entre guillemets. C'est ce que nous dit la Banque de France. Alors un accident de la vie, ça peut être une perte d'emploi, une maladie, un divorce. Mais alors est-ce que cette vision ne tend pas à présenter le surendettement, comme une affaire de malchance qui masquerait finalement les difficultés économiques et sociales préexistantes à la situation de surendettement ?
Oui, ça c'est ce que ma collègue Anna Perrin-Heredia a bien montré, hein, c'est que accident de la vie euphémise complètement ce qui se passe, c'est-à-dire que perdre son emploi ou divorcer crée une difficulté financière pour tous les ménages, mais certains ménages peuvent faire face alors que d'autres ne le peuvent pas. Et donc tout l'aspect de domination économique, pour utiliser des mots sociologiques, un peu gros, mais on est en fin d'émission, en tout cas disparaissent quand on parle d'accident de la vie et donnent le sentiment aussi que personne n'est responsable. Alors ça peut avoir l'avantage de dire que les clients ne sont pas responsables et de sortir d'une vision qui peut être très culpabilisante pour les débiteurs, mais ça veut dire aussi que les prêteurs ne sont pas responsables.
Et peut-être qu'il faut aussi interroger le rapport de notre société à la consommation, plutôt que de réguler davantage l'accès au crédit. Jeanne Lazarus, la libération du secteur du crédit dans les années 70-80 visait à faire du crédit un soutien à la croissance. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on en paye le prix ?
C'est difficile à dire parce qu'on ne peut pas dire que la consommation en elle-même est a forcément augmenté dans des proportions qui auraient créé le surendettement. Un des effets, enfin je pense qu'un des lieux où il faut regarder, c'est le logement. Et le logement n'est pas forcément une consommation au sens où on l'entend, en tout cas pas une consommation pour se faire plaisir ou être dans une situation de loisir, mais ça a beaucoup pesé sur les budgets des familles et fait que effectivement au moindre choc, le budget peut être complètement déstabilisé.
Ce qu'on constate en effet, c'est que la part des crédits à la consommation a diminué par rapport à la part accordée aux crédits immobiliers ces dernières années. Alors effectivement, on arrive au terme de cette émission. Jeanne Lazarus, peut-être un dernier mot plus largement. Est-ce que vous diriez qu'il s'agit aujourd'hui de remettre en question le système économique plus globalement qui a rendu possible ce surendettement? Quelles sont les mesures qui vous paraissent aujourd'hui capables et en mesure de lutter contre ce phénomène?
Sans doute, un certain nombre de mesures sont actuellement discutées autour de l'inclusion bancaire et notamment de réfléchir aux frais bancaires et à la façon dont les banques accompagnent leurs clients en difficulté, pas forcément en les mettant de côté, en les envoyant dans des services extérieurs, mais en regardant au sein de la banque comment on peut déjà régler les problèmes avant qu'ils ne s'amplifient.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur les annonces formulées par Emmanuel Macron pour répondre à la colère sociale qui agite en ce moment le pays.
Oui, et surtout à l'accueil qui a été réservé à ces propositions. Nous parlions hier de la réaction des marchés aux choix politiques du gouvernement italien. Eh bien en France, la réaction des médias ne s'est pas non plus fait attendre suite aux déclarations d'Emmanuel Macron. Cette série d'annonces visant à améliorer le quotidien des Français les plus précaires serait vue comme un aveu de faiblesse de la part du président Macron. Elle agirait comme le révélateur de la nature profonde du peuple et de l'économie française, toujours enclin aux joies de la dépense et du déficit.
Il y aurait ainsi une banalisation, une perte de crédibilité de la France sur la scène internationale.
La France est en tout cas renvoyée à son statut d'État membre du Club Med, aux côtés de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal et de la Grèce. Cette expression d'une redoutable violence politique et symbolique vise ainsi à qualifier les États du sud de l'Europe comme de sympathiques fainéants vivant au crochet de leurs voisins du Nord, sérieux et travailleurs. C'est le quotidien allemand Die Welt qui a ouvert le bal, expliquant que la France devenait la nouvelle Italie et faisait désormais courir un risque à la monnaie unique. Rapidement relayé par les médias français, le journal conservateur s'en est pris à l'irresponsabilité du président français, expliquant, je cite, que sa réaction à la foule en jaune devait déclencher la sonnette d'alarme à Berlin, et d'ajouter, Emmanuel Macron n'est plus un partenaire pour sauver la zone euro, mais un facteur de risque. Retour à la case départ donc pour le président français qui s'était pourtant efforcé de jouer au bon élève en présentant un déficit consciencieusement en dessous des fatidiques 3%.
Pourtant, Arjuna, ce que vous nous expliquez, c'est que cette indignation des marchés est pour le moins sélective.
Oui, on s'aperçoit avec cette attaque en règle de la presse et des commentateurs libéraux que toutes ces dépenses n'ont pas la même valeur partout. Partout des cris d'orfraie se font entendre, s'alarmant de la perte de crédibilité du président Macron à mesure qu'il s'éloigne de la trajectoire de déficit annoncée. Or, on n'entendait pas ces pitiés de l'endettement se manifester lorsque le gouvernement décidait de raboter l'ISF, de supprimer l'impôt sur les dividendes ou encore d'effacer l'exit tax. Ni quand le gouvernement précédent mettait en place le très coûteux mécanisme du CICE, censé relancer la machine économique et dont on attend toujours les résultats. On rappellera que les mesures annoncées par Macron pour répondre à la colère sociale sont estimées entre 8 et 10 milliards d'euros, contre près de 12 milliards pour le paquet d'aide fiscale accordé aux plus riches et plus de 45 milliards pour le CICE.
Donc pas seulement le coût économique des mesures qui entrent en compte.
Non, pas plus que leur efficacité économique au demeurant. Ce qui est jugé en réalité, c'est leur attrait pour une catégorie d'individus, investisseurs ou épargnants, connaissant bien leurs intérêts et les moyens de les protéger. À cet égard, le déficit et la dette apparaissent comme des objets profondément politiques, car au-delà de ces attaques médiatiques, révélatrices mais néanmoins anecdotiques, c'est la question du traitement réservé à la dette française par les marchés qui est en jeu. Les agents économiques, en choisissant de détenir ou non une partie de cette dette, formulent un jugement, une sanction envers les politiques du pays. En achetant des obligations d'État, ces agents économiques deviennent pour ainsi dire actionnaires de cet État et pèsent sur l'élaboration des politiques publiques. Pour un peu que celles-ci ne servent plus l'intérêt des riches épargnants, ils n'auraient alors aucun mal à aller investir dans une valeur plus sûre en Allemagne ou ailleurs. Cette mise en concurrence des pays qui se traduit par la différence des taux d'intérêt de la dette débouche inéluctablement sur une compétition au moins-disant sociale, une politique uniforme favorisant exclusivement ces riches épargnants susceptibles d'être intéressés par le rachat de cette insoutenable dette.
Shine wherever you are, and the road on which you roll won't be quite so dark. Poor little light, let it climb out of your eyes where we labor.
Oh Little Light de The Golden Messenger, un titre extrait de son album Bad Debt. Merci beaucoup Jeanne Lazarus de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle votre livre L'épreuve de l'argent, paru aux éditions Kalman Levy. Et vous êtes également co-auteur de l'ouvrage collectif Le biais comportementaliste, publié cette année aux presses de Sciences Po. On se retrouve demain pour une émission consacrée à la construction politique de la dette avec Benjamin Lemoine, Éric Toussaint et Jean-Clé Martin. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr. Et en podcast, rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho. About the song I'm singing.